C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Bonjour, bonjour. Bonjour Luc.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission 98 des boulons, l'émission des boulonnais. Alors, nous sommes en compagnie, Hugo et moi, de Virginie, de Cathy, de Michel, de Axel, de Yannick, de Julien, de Raphaël et de Jean-Claude et Cédric à la technique. Sans transition, nous allons faire
le sommaire.
Le sommaire. Alors, en premier, nous avons d'abord quoi, Hugo ?
Donc, en premier, on va voir Virginie qui va nous présenter un voyage.
Parfait. Puis après, nous avons Cathy qui va nous présenter Jérémy Frérot.
Oui, suivi d'un quiz culture générale par Yannick.
Puis nous avons Axel, l'étudiant psychologue, qui va être interviewé par Raphaël et Julien.
Très bien. Donc ensuite, un quiz sur Monaco.
D'accord. Et juste avant, j'ai oublié, il y aura une petite pause musicale des Gamins des Sables de Jérémy Frérot.
Oui. Découverte pour moi, je ne connais pas, malheureusement.
Moi non plus, d'ailleurs. C'est pas...
Ouais, bon, on verra bien. Il paraît que c'est le petit ami de l'Armano 12.
Non, c'était.
Ouais. Après, Jean-Claude, nous allons avoir une nouvelle pause musicale Radio Gaga Queen.
Ouais.
Puis je crois que
donc
Hugo.
Je vais faire un petit topo sur l'Égypte ancienne. Hein.
Voilà.
Ah. Et Auguste Mariette aussi, qui est boulonnais.
Ouais.
Puis nous allons avoir aussi Michel qui nous fait un quiz géographie.
Ah, ça change, tiens.
Pour changer du sport.
Ah oui, ça change. C'est bien, c'est bien.
Et puis les infos diverses et variées. Et en dernière pause musicale...
Les charronnières de Renault.
Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite.
Bonjour Virginie. Comment vas-tu ?
Ah ben, merci.
D'accord, donc tu veux nous présenter aujourd'hui un de tes derniers voyages ? Alors, c'était quelle destination, dis-nous ?
On a été à Megève.
Qu'aviez-vous vu là-bas ?
Dans une minute, nous nous rendons dans la ville de Hardom, et cette ville est la forêt d'une montagne. Je finis la chaîne de Mont Blanc. Le Mont Blanc. Et ça est une très grande montagne, c'est mesurant 4807 mètres. Après Hardom, se trouve le mont d'Arbois.
D'accord. Il y avait des petits villages, du coup, je suppose.
Oui, ce sont des paysages magnifiques. Parce que je suis allé... Où ces habitants sont apaisés.
Très bien. Pendant ton séjour, j'imagine que tu as eu l'occasion de faire des activités.
Oui, on s'est promené en famille.
D'accord. Tu es resté combien de temps ?
On est resté 8 jours.
C'est bien. Ok. Tu gardes quoi comme souvenir ?
De très bons moments en famille. Ils sont très rares. Et c'est très beau à l'œil. C'est magnifique.
Très bien. Oh, ça me fait plaisir donc, que t'aies fait ce voyage. Je trouve que tu as dû passer du bon temps et que du coup, ça permet de se déconnecter. Hein. Oublier la vie de tous les jours.
Tout à fait.
Très bien. Merci Cathy. Virginie.
Merci Virginie. Et tout à fait, nous allons passer à Cathy. Cathy qui va nous parler de Jérémy Frérot. Allez-y Cathy.
Et oui, retour à l'essentiel. Le troisième album de Jérémy Frérot, baptisé Gamins des Sables, est le plus intime de tous ses disques, en solo, et ouvre un nouveau chapitre pour lui. Aussi bien sur le plan musical que personnel. Vous avez été distrait pendant 2 ans, entre la sortie de votre album Meilleure Vie et celle des gamins des sables. Pourquoi cette pause ? Était-elle nécessaire ? Je n'avais pas fait de pause depuis que j'ai commencé dans la musique. Il y a eu le groupe Frérot de la Vega, et entre l'arrêt et mon démarrage en solo, il y a eu une année durant laquelle j'ai écrit un album et j'ai eu un enfant. J'ai eu besoin, après deux albums en solo, de me poser, de faire le résumé de ce que j'avais fait, de ce que j'avais sorti, et ça m'a fait du bien.
En fait, Cathy, c'est quel style de musique ?
Bah, de la pop.
De la pop ?
Essentiellement, oui.
De la variété, de la pop ?
Française.
D'accord. Il passe en radio, tout ça ?
Ah oui, tu connais. Hein, oui.
Frérot de la Vega, oui.
Même lui.
Il a fait plusieurs concerts.
C'est pas trop bon.
Sa dernière chanson, elle est intimiste, ouais. Elle parle de sa vie.
Ouais, bah, ouais c'est ce plus qui est résumé dans l'article.
C'est plus que c'est pas ton style, je pense, ouais.
C'est ça.
Il est originaire de
d'Arcachon.
De ta région, ouais. Ouais.
Bassin d'Arcachon.
Merci, ouais. Merci.
Ah, d'où les huîtres.
Bah oui. Oh, t'es perspicace aujourd'hui. Franchement, t'es en forme.
Tout ce qui parle du bassin d'Arcachon concerne la mer. Il dresse un portrait de la mer et son style de musique est très, très présent.
D'accord. Il a écrit beaucoup de tubes, de singles, comme on dit.
Trois ou quatre. D'accord. Mais il s'est séparé de son...
Label, maison de disque.
Ouais. De son...
Non, de son...
De son binôme. C'était un groupe.
Ouais.
Les frérots de la Vega. Bah, ouais.
Vous partez en tournée en janvier, la scène vous a-t-elle manqué ? Oui, j'ai eu le temps de créer ce qui manque, d'écrire cet album pour voir les gens, pour jouer, de jouer beaucoup, car sur le deuxième album, je n'ai pas pu le faire. Durant ces concerts, j'aimerais expliquer aux gens de ce que j'ai fait pendant ces deux ans. Je crois que ça va être très égoïste, mais je vais parler de moi. Je vais essayer de partager beaucoup de choses avec le public, mais ça va principalement parler de moi. Voilà.
Très bien, merci Cathy. Donc, on écoutera tout à l'heure un extrait de...
Gamin des sables. Jérémy Frère. J'ai choisi la pause.
D'accord. Bon, à tout à l'heure, alors.
Oui.
On passe maintenant au quiz Culture G de Yannick. Bonjour Yannick.
Bonjour. T'es prêt ou pas, là ? Ouais, ça va. Vous êtes prêts à répondre aux questions ?
Ouais, on va essayer, ouais.
Bon, il y a des questions pour les femmes,
des questions
pour les hommes, puis des questions en général. Non, je rigole. Allez, on commence par une question pour Cédric, en fait.
Mon Dieu.
Combien y a-t-il de familles d'instruments dans un orchestre symphonique ?
Oh là là.
Bois, 3, cuivre 4. Et percu, ouais, 3. Ouais.
Non, 4.
Les cordes et les cordes.
4. Attends. 4, 4.
Alors, vas-y, nomme-les.
Les cordes, les bois, les cuivres et les percussions. Oh, t'étais pas loin quand même. Hein.
Ouais. Merci, Janine.
Je vous. Hein.
Merci.
Une petite question pour ceux qui connaissent Harry Potter. Vous connaissez Harry Potter ?
Ouais.
Dans Harry Potter, comment sont appelés les disciples de Lord Voldemort ? Bon, vous connaissez pas Harry Potter ? Raphaël ? Non.
Voldemort.
Les disciples. Bon.
J'ai les bouquins pour.
Bon, je vous le dis, les mange-morts. Vous êtes pas en forme. Ah. Ça ne va pas du tout, ça. Petite question pour les gens qui connaissent un peu les grandes villes. Quels sont les points communs ? Quel est le point commun entre les villes Paris, Marseille et Lyon ?
Le nombre d'habitants.
Il y a des arrondissements.
Le métro.
Non, d'accord. C'est Michel qui a la réponse. Ce sont les seules villes de France où il y a des arrondissements.
D'accord.
Le Panthéon, oui, dont la construction s'est achevée en 1790.
Pourquoi vous me regardez comme ça, Yannick ?
devait être quoi ? C'est quoi à l'origine ?
Un temple ? Une place où on faisait le marché ?
Non.
C'était pas le... C'était pour Napoléon ?
Non, le Panthéon.
Non. C'était Louis XVI qui a fait construire... qui a commencé la construction du Panthéon. Okay. Et en fait, ça devait être une église. Bon, allez, on passe. Oh. Bon, je vais passer des questions plus simples.
Je vous ai demandé tout à l'heure...
comment se nomme l'emblématique lanterne d'Halloween, parce que je sais quand même, on a déjà fait une rubrique Halloween à la radio. Je vous rappelle que j'avais fait une rubrique. Vous vous souvenez pas ? Comment il s'appelle ? Oh, vous êtes...
J'ai dit que je vous avais dit qu'on n'avait pas de culture générale. Vous m'avez pas cru, vous m'avez dit ça va être facile.
Jack aux lanternes. Bon, allez, je vais prendre quelque chose de simple pour les femmes. Sous quel nom est plus connue Catherine d'Orléac?
Catherine Deneuve.
Catherine Deneuve. Ouais, ouais. Ah là là, ça y est. Là on vient. Allez, quelque chose de simple aussi. Vous connaissez tous Julien Doré.
Ouais. Ouais.
À ses débuts, il apparaissait avec quel instrument?
Un ukulélé.
Un ukulélé. Ouais,
ah, voilà.
Exactement.
Avec une barrette.
Voilà. Le kaola est un animal qui vit uniquement.
Koala.
Le koala, pardon. J'ai...
De l'herbe.
Excuse-moi. Je recommence. Le koala. Uniquement en Australie, qui vit uniquement en Australie. De quoi se nourrit-il?
De bambou.
Non.
De
les feuilles de je sais pas quoi.
Eucalyptus.
Bravo. À Luc. Bravo. Allez, plus simple. Quelle est la capitale de la bande dessinée en France?
Bruxelles.
Angoulême.
Bravo. Ouais. D'où vient l'expression « Ce n'est pas la mer à boire
». Mais la belle-mère avalée.
Je ne sais pas.
Alors, je pense que beaucoup d'entre nous avons appris des fables.
Parce que la mer... Oui.
C'est quelqu'un qui écrivait des fables.
Jean
de La Fontaine. Ça vient d'une fable de Jean de La Fontaine qui s'appelle Les deux chiens et l'âme mort.
D'accord.
Dans quelle comédie française, sortie en 2014, une adolescente découvre son don pour le chant en interprétant Je vais t'aimer de Michel Sardou?
Louane, oui.
Non.
La famille Bélier.
Ah. La famille je disais, Bélier. T'as oublié quelque chose. Bon, voilà. Alors, quelle est la température moyenne de notre planète? Oh, ça vous plaît pas? C'est de la culture, hein. Vous allez savoir des choses.
15 degrés.
Ouais, mais comment tu sais?
C'est vraiment au pif.
Oh, tu me sidères.
Ouais. Bah non, Luc, hein, t'aurais dû dire, ben je... Voilà,
c'est non, c'est la chance. C'est...
Et en avril 2021, une ville aux États-Unis, Silver Lake, au Colorado, a été ensevelie par quoi? Sous près de 2 mètres, a été ensevelie sous près de 2 mètres par quoi?
Par la mer. Boue.
Là? T'as dit quoi?
Par la mer?
Non.
Par de la boue?
Du sable, ouais?
Non.
Des claquets?
Non. Au Colorado. Hein. Colorado. Bon. Ça vous parle pas? Bon. Je m'en vais alors.
Les pierres?
Allez, 2 mètres de neige.
Au revoir, Jeanne.
Oh, yeah.
Au revoir.
Merci d'être venu. Bon, voilà, je vais arrêter là parce que je trouve que je vous ai pas trouvé en forme aujourd'hui.
Ah non. Continue, si t'en as encore.
Allez, j'en ai encore une, ouais. Le vent le plus fort jamais enregistré par une station météo.
293.
Non.
293.
Non.
Plus ou moins?
Plus.
420.
Un peu moins de 420. T'es pas loin.
408.
408 km/h.
408. Wow. Déjà quand on a 120.
Ouais. Ouais.
Déjà on s'envole à 120. Bah, ouais. Enfin presque, on s'envole presque, on en a eu quand même. Ouais. Comment s'appelle, tiens une petite question, je peux mettre une petite question de géo, ça t'embête pas?
Ouais, ouais, vas-y.
Comment s'appelle l'embouchure de la Garonne?
C'est pas nous qui sommes pas en forme, c'est Janine qui est déchaînée aujourd'hui.
C'est au bassin d'Arcachon.
Un peu au-dessus quand
c'est
même.
C'est un petit peu au-dessus.
Ouais. Un petit peu, c'est juste au-dessus du bassin d'Arcachon, l'embouchure de la Garonne.
Ok. L'estuaire.
L'embouchure, ça s'appelle la Gironde. C'est la Gironde. Rencontre entre la Dordogne et la Garonne qui viennent se jeter.
J'ai failli le dire.
Marbolo. T'as failli, mais tu ne l'as pas dit. Donc,
je ne l'ai pas dit.
Je crois
non.
que j'ai fait le tour de toutes mes questions.
J'ai peur de dire,
Jack tout à l'heure.
Ah non, j'en avais une autre. Où se situe le célèbre volcan du Piton de la Fournaise?
Réunion.
Bon bah écoute, au revoir tout le monde. Merci d'avoir participé. À l'année prochaine, c'est ça, Cédric?
Ouais,
allez, merci beaucoup.
Prochaine.
Au revoir, Yannick. Merci.
Merci, Yannick. Cathy, c'est
toujours
à vous.
Un plaisir de te.
On aura je poste s'il te plaît.
De répondre à tes quiz.
Cathy, vous allez nous parler de votre moment musical?
Oui. Je vous présente la pause musicale. Alors j'ai choisi Frérot de la Vega. Gamin des sables.
Je me souviens des trajets en vélo pour se rejoindre sur le sable, le soleil sur nos peaux, le goût salé des vagues, les feux du 14 juillet et nos glaces qui coulaient assis sur le perret et nos faces qui bronzaient. On se retrouvait au club de plage, pas de plan sur la comète, juste des enfants de passage, des rêves plein la tête. On séchait sous les parasols, on aimait regarder le ciel comme des gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant de passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables,
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 comme des gamins des sables. T'as vu comme on a grandi, toujours deux poissons dans l'eau. On habite au paradis, de la teste au moulot. Je me souviens des pinasses, accostées sur le banc, le cap ferré en face. Les trampolines d'avant, chez nous ça rigole. C'est l'histoire de nos vies, de gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant de passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables,
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 comme des gamins. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables,
comme des gamins.
J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage,
comme des gamins.
J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins. Des gamins des sables,
comme des gamins des sables,
comme des gamins des sables,
comme des gamins des sables.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
De retour au Boulon, l'émission des Boulonnais, nous allons écouter une interview de Raphaël et de Julien avec l'étudiant Axel.
Bonjour Axel.
Bonjour.
Étudiant en psychologie. Allez-y.
Bonjour à tous. Alors je vais interviewer Axel, donc comme ça a été dit, et je vais commencer par une question d'ordre plutôt général. Donc peux-tu te présenter Axel ?
Oui, bonjour à tous, donc moi c'est Axel, je suis en études de psychologie, donc je suis en quatrième année, donc ça équivaut à Master 1, et je suis à l'université de Lille.
Il n'y a pas de souci, bah, je vais laisser la parole à Raphaël pour une question.
Quel parcours de formation fais-tu ?
Donc moi j'ai un parcours un peu atypique, j'ai fait 2 ans de licence de biologie sur Calais à l'université LULCO Littoral Côte d'Opale, et je me suis réorienté en études de psychologie. Donc en fait, il faut faire 3 ans de licence. On a une sélection après notre 3e année de licence pour passer en master. Donc de mémoire, il y a 11 masters à Lille. Moi, j'ai choisi thérapie comportementale et cognitive pour mes études, donc master 1 et master 2. Et à l'issue de ces 2 années, j'aimerais être psychologue.
Il n'y a pas de souci. Donc,
donc à ton compte
Ça, c'est une question.
C'est la suite.
C'est une prochaine question.
Désolé.
Mais c'est bien en même temps.
Donc, du coup, là, c'est une question que je rajoute. Qu'est-ce que tu, pourquoi tu as arrêté tes études de biologie, du coup ?
Il y a eu la période Covid qui m'a un peu démotivé, malheureusement. Et en fait. En sortie de lycée, je ne m'étais pas vraiment intéressé aux débouchés que pouvait avoir une licence de biologie. Et au final, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Je ne me voyais pas travailler en laboratoire, ni être prof d'SVT ou de biologie à la fac, par exemple.
Ok, ok. En quoi consiste le métier et quelle est ta spécialisation, du coup ?
Le métier de psychologue, comme on se l'imagine un peu, donc c'est la prise en charge de patients qui viennent pour diverses raisons. Ma formation, elle consiste en fait, donc thérapie comportementale et cognitive, c'est une branche de la psychologie qui va vraiment être dans la collaboration avec notre patient. En fait, on va être susceptible de lui demander de faire des exercices chez lui. Et le but final, c'est de rendre indépendant le patient. On ne veut pas du tout ce côté que le patient ait besoin de nous, même lorsqu'il n'a plus besoin de consultation, par exemple. Et du coup, on veut vraiment le rendre indépendant. Et par exemple, s'il rencontre divers problèmes dans sa vie, qu'il puisse être capable de résoudre lui-même les problèmes grâce aux exercices qu'on lui a donnés au préalable en consultation.
D'accord, donc Freud, Lacan, tout ça, c'est quand même étudié ou...
Pas du tout. Non. C'est vraiment l'opposé de la psychanalyse.
Ok, d'accord. Raphaël, je ne sais pas si tu veux poser une question.
Comment se déroulent les stages en tant qu'étudiant psycho ?
Donc du coup, en troisième année, j'ai dû faire 70 heures de stage, ce qui est très peu. En première année de master, du coup, on nous demande 210 à 350 heures de stage pour valider notre master 1. Et on est encore dans de l'observation, mais en fonction de comment on se sent, on peut, par exemple, prendre en charge un premier entretien, donc anamnèse. Donc l'anamnèse, donc, ça va être l'histoire du patient. Mais on ne va pas être dans la thérapie pure. La thérapie, ça va être plus en master 2. Donc on nous demande 500 heures de stage pour valider notre master 2. Et là, ça va vraiment être prendre en charge des patients, les consultations au fil des semaines.
Et là, le fait que tu sois ici, ça compte comme des heures de stage ?
Oui.
Ouais, ouais, oui, il est en stage avec nous, à côté, avec une psychologue.
Oui.
Qui est orientation TCC.
On est dans l'obligation de faire nos stages avec une psychologue qui pratique donc les thérapies comportementales et cognitives pour valider notre master de thérapie comportementale et cognitive.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu justement de ces thérapies comportementales et cognitives ?
Bien sûr. Après, qu'est-ce que vous voulez savoir vraiment
Parce que c'est des termes assez techniques. Est-ce que vous pouvez justement, pour une personne lambda, expliquer un petit peu ce que c'est ?
Du coup, les thérapies, elles vont vraiment se centrer sur les cognitions des patients, donc les pensées.
Un peu moins, déjà thérapie. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie ?
Une thérapie, pour moi, ça va être une prise en charge d'un patient qui va venir nous voir en consultation pour une certaine demande, donc ça peut être une souffrance, et on va vraiment essayer de recentrer la thérapie en fonction du patient, vraiment l'individualiser, et on va vraiment tourner nos thérapies autour donc de ses cognitions, donc ses pensées, les comportements qu'il peut faire, et aussi les émotions qu'il peut le ressentir.
D'accord, et ça se fait à travers d'exercices, du coup, la thérapie.
On peut, donc par exemple, un exercice qu'on peut donner, donc quelqu'un qui a une phobie, par exemple, phobie de prendre la parole, on peut lui, par exemple, lui demander de faire de l'exposition. Donc l'exposition, ça va être, t'as des difficultés, demain tu vas aller à McDo et tu vas commander un burger, tu vas pas aller sur la borne pour commander, tu vas directement aller au comptoir et tu vas devoir parler avec la personne qui prend en charge ta commande et vraiment essayer de réduire l'anxiété. En fait, il va être exposé à l'anxiété et se rendre compte que c'est pas si insurmontable que ça, et au fur et à mesure s'habituer à cette prise de parole qui peut être compliquée pour lui.
D'accord, donc je sais qu'il y a beaucoup de monde qui confondent psychiatre et psychologue. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la différence ?
Ouais, bien sûr, c'est une très bonne question. Donc un psychiatre, il va avoir fait des études de médecine. Donc les études de médecine avec le concours en première année, et il va venir se spécialiser en psychiatrie pour être psychiatre, alors que nous on passe dans un parcours plus global avec une licence de psychologie et un master. Et en fait le psychologue va être là pour les psychothérapies, alors que le psychiatre il va plus être dans la mise en place de diagnostic en fonction du patient qu'il reçoit, et il va pouvoir attribuer des médicaments pour gérer la souffrance du patient.
Voilà, psychologue, il prescrit pas en fait.
Après, un diplôme en psycho, que peux-tu faire ?
Donc il y a plusieurs choses. Donc, après mon Master 2, je peux par exemple choisir de me spécialiser dans la recherche. Donc ça va être des travaux de mémoire à réaliser pour écrire à la fin une thèse et être doctorant. Donc c'est 3 ans d'années supplémentaires pour être doctorant. Et on peut être dans la recherche en psychologie et on peut également enseigner en psychologie, donc être enseignant-chercheur. Donc c'est à moitié travailler sur nos diverses recherches qu'on veut élaborer et donner des cours à la fac en psychologie. Et l'autre parcours un peu classique, donc c'est être psychologue. Il y a différents psychologues, donc ça peut être en libéral, donc ouvrir son propre cabinet, en structure, donc à l'hôpital, en CMP, donc c'est une structure qui est rattachée à l'hôpital, et vraiment être dans la mise en place de thérapie et de psychothérapie, plus précisément.
Je demande après toi, être psychologue au sein de la santé mentale, en psychiatrie par exemple, tu crois que tu as une place, tu as un rôle à jouer pour aider les usagers?
Bah, je pense qu'en allant en psychologie, on a cette volonté d'aider les personnes. Donc oui, j'espère avoir un rôle à jouer et j'ai tout à apprendre en stage justement pour le faire le mieux possible en fait.
Est-ce qu'il y a un mémoire à la fin?
Oui, ah, j'ai oublié de le préciser. Donc à la fin de mon Master 1, j'ai un mémoire à rédiger. Et à la fin de mon Master 2, j'ai un autre mémoire que là, je vais devoir présenter devant un jury. C'est 5 personnes vraiment spécialisées dans la recherche en psychologie qui viennent vraiment nous évaluer sur notre travail de recherche à faire.
Et c'est quoi le thème de...
Le thème abordé, donc, ça va être nos professeurs, nos encadrants de master qui vont vraiment venir nous dire sur quoi ils veulent travailler. Et nous, on va dire sur quoi on est intéressé. Moi, cette année, je vais travailler sur l'élaboration d'un t-shirt intelligent. Donc ça va être un t-shirt qui va être capable de capter les émotions des personnes dans le but de prévenir une attaque de panique. Et ça va vraiment être à terme, dès que la personne va ressentir les premières émotions d'une attaque de panique, elle va être mise au courant pour mettre en place directement les choses nécessaires pour réduire l'anxiété et réduire l'attaque de panique qui va venir.
Ouais, tu veux travailler chez Kiabi, quoi.
Bon, on est en collaboration avec l'ANSET, donc c'est une école d'ingénieurs qui est vraiment spécialisée dans le textile et elle est située à Roubaix. Et, ça peut être Kiabi, ouais. On peut travailler à Kiabi.
Mais c'est vrai qu'il y a des outils, le casque virtuel, entre autres, ouais, qui est également utilisé pour tout ce qui est phobie,
l'exposition, etc. Voilà. L'exposition, justement... Par exemple, on peut les mettre en situation, une personne qui a vraiment la peur du vide,
voilà,
on peut la mettre
au-dessus
d'un immeuble. Quoi.
Exactement.
C'est vraiment intéressant.
C'est vrai que les outils, ça permet aussi d'avancer quelque part. Quoi. Ça peut être aidant.
On a vraiment, en psychologie, l'idée que les TCC, c'est vraiment une boîte à outils. Et OK, quelqu'un qui a une phobie, on va lui faire ça, ça, ça. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a une multitude d'outils qu'on peut utiliser. Et vraiment individualiser la thérapie à la personne. Et c'est vraiment très intéressant. C'est un peu se casser la tête parce qu'on doit trouver les meilleures solutions possibles. Et je trouve ça vraiment intéressant.
Ok. Bah, moi, j'avais une dernière question, mais je crois qu'on y a déjà répondu. Qu'envisages-tu après tes études?
Moi, le côté recherche, pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est beaucoup plus difficile de trouver un poste d'enseignant-chercheur, justement, à la fac. Et moi, je suis venu en psycho pour être psychologue et j'aimerais travailler en structure au début. J'aimerais bien travailler à l'hôpital pour mettre en œuvre ce que j'ai appris et travailler au sein d'une équipe et vraiment me former aussi, parce qu'on se forme sur le terrain. Et à terme, ouvrir mon cabinet libéral. Je ne sais pas encore où, mais voilà.
Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci d'être venu.
Ouais, merci à vous. Sympa.
Merci, merci. Alors maintenant, nous allons changer complètement de sujet parce que nous allons parler de Monaco.
L'AS Monaco, l'équipe de football. Donc, va nous présenter Jean-Claude.
Bonjour.
Bonjour Jean-Claude. Alors tu vas nous présenter l'AS Monaco. Où joue l'équipe de Monaco?
Au stade Louis II.
C'était un très beau stade. Moi, je l'ai vu. Je suis allé au Monaco pratiquement pour aller voir le stade.
Ah, vous n'avez pas une résidence là-bas, Michel?
Non, pas encore. Le manager, c'est
Adi Hutter.
Adi Hutter, d'accord. Le terrain d'entraînement, il est situé où?
Training Center La Turbie.
Oui, La Turbie, c'est très joli, mais par là aussi. Les gardiens de but sont lesquels?
Kohn et Majiki.
Les défenseurs?
Thésée, un but. Kerrer, 3 buts, 1 passe décisive. Mavissa, Singo, 2 buts, 2 passes décisives. Ouattara, 1 passe décisive. Salissu, 1 but.
Les milieux de terrain?
Vanderson, 1 but, 3 passes décisives. Zakaria, 3 buts, 2 passes décisives. Benseguir, 5 buts, 3 passes décisives. Golovin, 2 buts, 1 passe décisive. Akiyush, 4 buts, 4 passes décisives. Enrique, 1 passe décisive. Camara, 2 buts, 2 passes décisives. Minamino, 3 buts, 2 passes décisives. Yenikena, 2 buts, 2 passes décisives. Magasa, 1 but.
Et les attaquants?
Balogun, 3 buts. Mbolo, 3 buts, 4 passes décisives.
Et en championnat, quel résultat a eu l'AS Monaco?
Monaco a 29 points, 9 gagnés, 2 nuls, 3 perdus.
D'accord. Et en Ligue des Champions, ils ont eu quel résultat?
Alors Monaco-Barcelone, 2 pour Monaco, 1 pour Barcelone. Dynamo Zagreb, Monaco, 2 pour Dynamo Zagreb, 2 pour Monaco. Monaco étoile rouge, Monaco 5, étoile rouge 1. Bologne, Monaco, Bologne 0, Monaco 1. Monaco Benfica, Monaco 2, Benfica 3. Arsenal Monaco, Arsenal 3, Monaco 0.
Est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore se qualifier pour la Ligue des Champions?
Oui, ils sont bien partis hein, pour
ils
se qualifier.
Ils sont bien partis, mais...
Au moins pour les 16e de finale, c'est presque fait.
D'accord. Merci.
Il y a N'Golo Kanté. Merci. Qui est là-bas. C'est ça? N'Golo Kanté?
Ah non, c'est pas le même.
Ah, j'ai entendu N'Golo, c'est pour ça.
Mbolo.
Mbolo, d'accord.
N'Golo Kanté, il joue en Arabie Saoudite.
Ah ouais.
Ouais, il est parti.
Ah ouais.
Toucher de l'argent là-bas.
Ouais, d'accord. Ok.
Il y a Mbappé qui est passé par Monaco aussi.
Oui, hein, oui, oui. Tout à fait, oui. Il a débuté à Monaco. Ouais.
Ok.
Le stade est beau, mais il est souvent vide.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Le stade est. Il y a, je sais pas combien de spectateurs, 2000 spectateurs par match, alors que à Lens il y a 35 000.
Plus j'ai appris que l'ASM quand même c'était la propriété de milliardaires russes.
Oui, 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 tout à fait. Oui.
Alors c'est vraiment, ouais. C'est vraiment bizarre quoi, parce que Monaco ils ont du pognon quand même. Et,
ouais, mais ils ont de l'argent.
Pourquoi, comment ça se fait que ce soit un russe qui?
Oui, bah ouais, ouais, oui c'est. C'est tout à fait incompréhensible.
Je crois qu'on nous appelle pour nous dire attention, Queen Radio Gaga.
Les boulons. L'émission des boulonnais.
I'm not afraid to die.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Alors après Radio Gaga de Queen, nous allons passer maintenant avec Hugo sur l'Égypte et les hiéroglyphes.
Merci, merci Luc. Donc aujourd'hui, oui, l'Égypte et l'Égypte et l'Égypte ancienne principalement, parce que l'Égypte moderne, je n'y connais rien. En fait, l'égyptologie, c'est un domaine de recherche, un champ d'étude de la vie en Égypte. En fait, il a été créé par un boulonnais, donc c'est Auguste Mariette qui a créé l'égyptologie accompagné de Champollion. Donc Auguste Mariette, donc, qui est boulonnais, il est né en février 1821 et il est mort en janvier 1881.
Non,
1881. Vous savez bien que j'aime bien me tromper dans les siècles. Mariette a découvert notamment en 1850 141 sphinx et plusieurs statues dont le célèbre scribe accroupi. Je crois que Yannick connaît aussi l'histoire de l'Égypte sur le bout des ongles. Bonjour Yannick.
Bonjour. Alors, je dirais pas ce que je pense parce que nous sommes à la radio. Non, moi, je t'ai dit que j'étais allée en Égypte et que j'avais fait les principaux, la croisière sur le Nil, et donc j'ai vu la vallée des rois.
Donc, il paraît
pour lequel il a participé, puisqu'il y a beaucoup d'égyptologues qui ont découvert des tombeaux dans la vallée des rois.
Ils sont devenus fous, il paraît. Ah bon ? Il y a une malédiction autour des pyramides égyptiennes, parce que...
C'est le seul truc que j'ai pas vu, t'as pas de chance.
Elles étaient sacrées, et du coup, ils ont percé le secret, et ils ont été pris par une malédiction.
J'ai été impressionné par, par ce qu'ils ont bâti, ouais. Rien qu'avec leurs mains, les hommes. Enfin, ouais. C'est incroyable de grandeur. C'est vraiment incroyable.
Donc les hiéroglyphes, les hiéroglyphes, c'est une unité graphique. Donc c'est une sorte d'alphabet, en fait. Donc c'est utilisé pendant l'Antiquité comme pour des langues comme l'égyptien. Donc les premiers témoignages hiéroglyphiques suivent de quelques siècles les plus anciennes tablettes sumériennes écrites en caractères cunéiformes. Donc c'est la pierre de Rosette qui a été découverte par Champollion qui a permis de décrypter les hiéroglyphes. On sait lire les hiéroglyphes. Alors... Pour info, les hiéroglyphes s'écrivent de droite à gauche, de gauche à droite ou de haut en bas, la direction usuelle étant de droite à gauche. Le lecteur, pour connaître le sens de lecture, doit considérer, attention, c'est très technique, la direction dans laquelle sont tournés les hiéroglyphes asymétriques. Vous avez quelque chose à rajouter ?
Bon, écoute, non, c'est super intéressant.
D'accord. Donc, petite anecdote encore avec l'IA. Vous savez que j'aime bien vous parler de l'IA de temps en temps, l'intelligence artificielle. Donc, il y a un traducteur qui a été lancé par Google qui permet donc de traduire les hiéroglyphes comme on
fait. Ah ouais, ouais. Alors, ça raconte quoi?
Je l'ai dit, Cédric, il y a une malédiction qui tourne.
Ah, c'est ça, c'est pour ça que tu parlais de cette malédiction.
Faire attention.
Ah ouais.
Ouais. Donc, pour revenir sur la pierre de Rosette, donc c'est un fragment de stèle.
Pierre de Rosette. Ça me fait penser à la Rosette.
À la Rosette au saucisson.
Ouais, ouais. Saucisson. Bah oui, ça aussi, c'est maudit. Ça, c'est du gras, c'est pas bon. C'est, pas bon.
Ouais, bah, c'est peut-être ça. Alors.
Allez dire ça à Raphaël, il mange que ça. Ouais.
De la Rosette. Bon, allez, non, sérieux, là, c'est, ouais. On est en Égypte, il n'y a pas de Rosette quand même. En Égypte.
Ouais. Bah, rien, bah non, c'est la pierre de Rosette, justement, Yannick.
Oui, j'ai compris.
Ah bon? C'est une stèle gravée qui date de l'Égypte antique.
Ah mais j'ai entendu. Je te suis. Hein. J'ai non, pas l'air comme ça, mais je
ah bon,
suis. Hein.
Ah bon. Donc en fait, ça a permis donc vraiment de traduire. Et donc voilà. Donc okay. notre Auguste Mariette boulonnais adoré, fait partie donc des créateurs de l'égyptologie. Pour anecdote, à Boulogne, le musée de Boulogne-sur-Mer, en vieille ville, enfin à côté oui. de la vieille ville, ouais. A toujours eu une belle exposition autour de
ouais.
l'Égypte.
Oui, c'est vrai.
Et donc, il y a notamment le cercueil de Néhem Simountou.
Ouais.
Qui, c'est ça. C'est cette pièce-là qui a donné envie à Auguste Mariette de devenir égyptologue. Donc c'est un des objets les plus anciens du musée. Donc c'est fabriqué certainement aux alentours de la 25e dynastie. La vallée des rois.
Oui, la vallée des rois, ça me parle.
Ouais. Mais on ignore sa provenance exacte. C'était une sorte de sarcophage, en fait, hein, où il y avait une dépouille à l'intérieur. Mais bon, il paraît que la dépouille qui a été vendue en même temps que le sarcophage, la momie n'était pas vraiment la bonne. Mais bon,
ils ont changé la momie en...
Ah ouais, se sont fait arnaquer.
Dans l'avion,
ouais.
Ils se sont fait arnaquer. Tu sais où on trouve la statue Il n'y a pas une statue d'Auguste, il n'est pas marié.
Si.
Il n'est pas quelque part.
Sur l'esplanade de Mariette.
Sur l'esplanade, ouais.
Ah bon
du même nom.
Ah
ouais.
Avec un beau parking.
Avec un beau parking payant maintenant. Merci. Vous avez bien fait d'habiter la cab.
Okay.
Est-ce que vous payez moins cher?
Non, c'est même gratuit.
On paye pas.
C'est gratuit, hein, c'est ça?
Non, c'est gratuit. Oui.
Ouais. Le parking Mariette est gratuit pour ceux
les gens
sont...
de la cab.
D'accord.
Ouais.
Je savais pas ça. Bah, merci de me le dire.
Ouais.
Donc, Mariette, il est né à Boulogne, mais il est décédé au Caire, en Égypte, du coup.
Oui.
Et vu qu'on est très 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 chauvin à Boulogne, il y a quand même un lycée qui porte son nom, le lycée Mariette, qui est quand même un bon lycée.
The Lycée of Mariette.
Voilà.
Bah, c'est parfait. Bah, voilà,
où Hugo a fait son BTS.
C'est ça.
Ouais. Je dis quand même, ceci t'en parle et que c'est parce que tu le connais.
Oui.
Merci okay. Hugo.
Alors, nous allons continuer avec de la culture, mais de la culture géographique, avec Michel.
Oui, bonjour. Je vais changer un peu de rubrique cette semaine, ce mois-ci. Je me suis tourné vers la géographie, puis ça me permet d'apprendre en même temps. Première question, dans quel pays est situé Koh Lanta ?
En Argentine.
Non.
Ah non, Koh Lanta.
Non, Koh Lanta, c'est pas...
En Indonésie.
Non.
Non,
non. Océanie.
C'est le continent.
C'est le continent, ça.
Ah oui, c'est le continent.
C'est pas au large du Vietnam. Ouais. Non, dans les îles au
large
du Vietnam.
Ça doit pas être loin, mais...
Ouais, vas-y.
C'est la Thaïlande.
Ah, c'est la Thaïlande. Ouais. Ouais, je sais.
Où est situé le Taj Mahal ?
En Inde.
En Inde, oui. Ah, c'est un mausolée en marbre blanc, incrusté de pierres
de pierre édifiée au XVIIe siècle par l'empereur Chahan, excusez la prononciation.
À tes souhaits aussi.
C'était pour sa femme qu'il avait fait construire ça. C'est près d'Agra, d'une grande ville de presque 800 000 habitants. Où est situé Ushuaïa ?
Là, c'est en Argentine.
C'est en Argentine, oui. Où est située l'île de Java ?
À Java, en Indochine.
Ça, c'est bien commencé.
Indonésie.
Indonésie, oui, c'est ça. C'est la quatrième plus grande île du monde et Antananarivo est ma capitale.
Madagascar.
C'est ça. C'est dans l'océan Indien au large de l'Afrique. Oui. C'est un village peuplé de 170 habitants qui se situe en Normandie. Et porte le nom d'un fromage.
Camembert,
c'est ça.
Ouais, bravo.
Ouais. Les Jeux Olympiques 2022 s'y sont déroulés. C'est express pour un jeu télévisé français et son autre nom est Beijing.
Pékin.
Pékin, oui, c'est ça. Oh, mon Dieu. Balèze Pékin.
Ouais.
Alors, le continent le plus au sud de la Terre, ses habitants sont uniquement des chercheurs. La marche de l'empereur y a été tournée.
L'Antarctique.
L'Antarctique, oui, c'est ça. Alors, c'est une ville fantôme. Elle ne sera habitable que dans 24 000 ans. Et c'est le lieu de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
De Tchernobyl, oui, la ville à côté. Là.
Alors, la ville, je ne sais pas si vous connaissez le nom de la ville.
Non,
moi, je ne connais pas.
Priat.
Ah, ouais, c'est pas un truc dans ce genre-là ?
Priat.
Oui, c'est ça. Ah. Mmh. Et c'est en. C'est un pays en guerre actuellement.
En Ukraine.
Ouais. Où est la grande barrière de corail ?
En Australie.
Oui, au large du Queensland, oui, c'est ça. Et où est situé Katmandou ? C'est facile, ça.
Bah oui.
C'est facile. Enfin, quand c'est on a la réponse, c'est toujours facile.
La réponse, ouais. Non, mais vous, je
c'est
savais.
C'est en Inde.
C'est en Afrique du Sud.
En Inde.
Non, c'est pas en Inde.
Non, c'est au Pérou, en dessous du Pérou.
Non. Franchement,
c'est en Asie, mais.
Ah, c'est en Asie.
Julien, tu sais pas.
Au Népal.
Au Népal.
Exact.
Ah, bah voilà.
Exact.
Bah voilà.
Ouais, c'est ça, Népal.
Alors, c'est où ? Alors, la légende raconte qu'un dragon vivait sous le château. C'est la ville de naissance de Jean-Paul II et le film La liste de Schindler s'y est déroulé.
Varsovie.
Cracovie.
C'est Cracovie, oui, c'est très bien. Alors, où est situé Pearl Harbor ?
L'océan Pacifique.
Ouais, dans l'océan Pacifique. Pearl Harbor, c'était.
C'est en Amérique ?
En Amérique,
oui. C'est sur une île.
C'est au large de la Floride ? De l'autre côté.
C'est pas la Floride.
C'est de l'autre côté, alors.
C'est
de l'autre côté.
En fait, je vais vous le dire, c'est à Hawaï. Ah. C'est les USA aussi, mais... La flotte américaine du Pacifique qui fut détruite par le Japon en 1941. Où est situé Hanoï ?
Au Vietnam.
Oui, c'est ça, oui. C'est la capitale du Vietnam, en fait. C'est une chaîne de montagnes qui s'étend sur trois pays d'Afrique du Nord. Son point culminant est le mont Toubkal et a le nom d'un homme destiné à porter le globe
terrestre.
Atlas,
ouais, c'est ça. Et dernière question, j'ai pas pu m'empêcher de m'approcher vers du sport, mais où est situé le stade Maracanã ?
En Argentine.
Non, c'est pas en Argentine.
Au Brésil.
Au Brésil, oui.
Maracanã,
à Rio.
C'est Rio.
À Rio de Janeiro. Voilà.
Eh bien, merci bien, Michel. Est-ce que Cédric peut nous donner les prochaines
dates de diffusion ? En effet, on arrive à la fin de cette émission.
Voilà, c'est ça.
Hein, 98e, fin d'année.
Exactement,
en plus.
Fin d'année.
Voilà.
Ah ouais. Noël s'est bien passé.
Noël, voilà, c'est bien passé. On va vous souhaiter d'ailleurs une bonne.
De bonnes fêtes de fin d'année.
Fin d'année, une nouvelle an, quoi.
Et puis, on vous souhaite pas encore bonne année, mais bientôt.
Bah,
bientôt.
Ouais. Ouais. Et donc, la prochaine émission sera diffusée le samedi 25 janvier à 13h. et le dimanche 26 janvier à 15h. Donc retrouvez-nous pour cette 99e émission. On va bientôt arriver à la 100e.
Ouais. Exactement.
Il y a un truc à faire.
Bah, on essaiera peut-être de faire un petit truc. On va réfléchir à l'émission.
Il y aura des surprises. Ouais. Il y aura des surprises.
Il y aura des cadeaux.
On ne vous en dit pas plus.
Voilà.
À l'année prochaine, tout le monde.
À l'année prochaine et merci pour votre écoute.
Merci à tous.
Et puis, dernière petite pause. Qui a choisi Renaud? C'est toi?
C'est Julien. Allez-y, Julien.
Donc, la dernière pause, c'est Renaud les Charognards.
Eh bien, bonne écoute.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charron. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière, du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. J'ai la connerie humaine comme oraison funèbre, le regard des curieux comme unique linceul. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud, on portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau. Le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit, je suis pas raciste, mais quand même les bicots, chaque fois qu'il y a un sale coup, ben il faut qu'ils en soient. Moi monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine, dit un ancien para à quelques arrivistes. Ces mecs c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh, faut les descendre d'abord et discuter ensuite. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud, on portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau. Les zonards qui sont là vont se faire lyncher sûrement s'ils continuent à dire que les flics assassinent, qu'on est un être humain même si on est truand, et que ma mise à mort n'a rien de légitime. Et s'il prenait ta mère comme otage ou ton frère, dit un père béret basque à un jeune blouson de cuir. Et si c'était ton fils qui était couché par terre, le nez dans sa misère, réponds jeune pour finir. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud, on portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau. Et monsieur Blanc Cassis continue son délire, convaincu que déjà mon âme est chez le diable, que ma mort fut trop douce, que je méritais pire. J'espère bien qu'en enfer je retrouverai ces minables. Je suis pas un héros, j'ai eu ce que je méritais. Je ne suis pas à plaindre, j'ai presque de la chance. Quand je pense à mon pote qui lui n'est que blessé et va finir ses jours à l'ombre d'une potence, c'est bien fait pour sa gueule, ce n'est qu'un petit salaud, on portera pas le deuil. C'est bien fait pour sa peau, elle n'a pas 17 ans, cette fille qui pleure en pensant qu'à ses pieds il y a un homme mort. Qu'il soit flic ou truand, elle s'en fout sa pudeur, comme ces quelques larmes me réchauffent le corps. Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charron. Il est 2h du mat, bon sang coule au ruisseau. C'est le sang d'un voyou qui rêvait de millions. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau, j'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.